Salut les Smart, salut les Marx et bienvenue à Catch Up, Catch Up Pro, le podcast officiel des cahiers du catch qui regarde, qui analyse et qui résume pour vous les shows de la WWE. Je suis l'amiral Armba et pour commenter avec moi ce Raw, eh bien, il y a le El Patron, Hank. Salut Hank.
Salut. C'était vaguement, non, au début je voulais faire le générique de Del Rio et en fait ça n'a pas marché. j'ai perdu la mélodie.
Tout le monde n'est pas Ricardo Rodriguez qui veut, hein, voilà, c'est pas évident.
Il me manque. Là il me manque Ricardo.
Qu'est-ce qu'il était bon. Oui. Une petite pensée pour toi Ricardo. Donc nous sommes là pour discuter ensemble du Raw du 6 mars au lendemain de Fastlane. Donc le Raw, ça y est, on est enfin dans la Road to WrestleMania. D'ailleurs on va nous gaver toute la soirée de la Road to WrestleMania, comme quoi c'est un train à haute vitesse, une montagne russe, etc. Regardez le signe, il est là-haut. Vous le voyez chez vous. Et donc, pour ce soir, bah, on a toutes les retombées de Fastlane. Hein. Donc, la review de Fastlane est disponible sur notre chaîne. Vous pouvez écouter ce qu'on en a pensé. Pas du bien. Ça, c'est clair. Pas de bien. Et on espère que l'Euro sera un peu mieux. Et ce soir, on est donc dans la Allstate Arena de Chicago, la mythique arène de Chicago. Un public pas forcément évident, puisqu'on sait qu'il va y avoir pas mal de chants. CM Punk, forcément. Et on commence le show peut-être de la meilleure des manières avec un segment assez long mais qui va peut-être donner du plaisir au public de Chicago puisque c'est la musique de Chris Jericho qui retentit dans l'arène. Hein. Chris Jericho qui est revenu la veille pour intervenir entre guillemets dans le match donc entre Goldberg et Kevin Owens. Donc petit rappel, si vous n'avez pas suivi, Kevin Owens s'est fait squasher comme une merde par Goldberg parce que Jericho l'a distrait en jouant sa musique simplement. Et donc Kevin Owens a perdu la ceinture. Donc Jericho fait son retour à Raw. Donc il dit que c'est sa première apparition à Chicago, à Raw, depuis le Festival of Friendship où Kevin Owens l'a attaqué dans le dos. C'est la résurrection de Jericho. Il s'est fait planter un coupeau dans le dos, remuez-le. Hein, donc il fait des variations de Drinking It Man, mais avec le couteau, avec plein de trucs. Donc il est plutôt en forme. Et forcément, il est là pour demander des explications, des comptes à Kevin Owens. Pourquoi ? Pourquoi tu m'as trahi, Kevin Owens ? L'ancien champion universel ne se fait pas prier, il débarque et lui dit en gros, tu me demandes pourquoi j'ai trahi mon meilleur ami, mais en fait j'ai pas trahi mon meilleur ami, t'as jamais été mon meilleur ami. Sami Zayn à la limite, ça a été mon meilleur ami et t'as vu ce que je lui ai fait, toi t'étais juste un instrument. Depuis que j'ai gagné la ceinture universelle, eh bien Triple H m'a dit qu'il fallait que je fasse tout pour la conserver, alors je cherchais un mec pour me protéger, un mec un peu crédule, un peu neuneux, eh ben t'étais l'outil parfait pour ça. Donc là, Jericho, forcément, il tire la tronche. Hein. Ok, c'est pas cool. Et Owens qui rajoute, mais voilà, depuis que tu as accepté à ma place le match de titre contre Goldberg, eh ben là, t'étais plus devenu un outil, t'étais devenu un poids mort et il fallait que je m'en débarrasse. Donc c'est pour ça que je t'ai trahi. Est-ce que t'es content ? Donc Jericho, il fait, ouais, ok, t'as raison. T'avais jamais été mon meilleur ami. De toute façon, j'ai pas besoin d'amis comme toi parce que j'ai plein d'amis ici, tous les gens à Chicago. Donc là, les gens pop comme un fou, Y2J, comme vraiment des malades. Et là, on se rend compte que Jericho, maintenant, est le meilleur face, peut-être, de Raw, mieux que les Roman Reigns, Seth Rollins. Donc ça, c'est plutôt cool à entendre. Et donc, il continue. Jericho, en gros, dit « C'est pas fini. Ce que j'ai fait hier à Fastlane, c'était rien. C'est seulement le début de la route à WrestleMania. Moi, ce que je veux, c'est toi et moi dans un ring à WrestleMania. » Owens fait « Ok, mais moi, ce que je veux, c'est prendre ton titre. Tu m'as fait perdre mon titre. Et ben moi, je veux prendre le tien. Donc, si tu mets le titre américain, puisqu'effectivement, Jericho est toujours champion des États-Unis dans le match, et eh ben c'est bon, c'est signé. » Jericho, il fait « Ok, pas de problème, c'est fait. » Donc là, le match est annoncé, Jericho et Owens à Mania pour le titre des États-Unis. Owens quand même qui dit « J'ai ma rematch pour le titre universel, mais je verrai ça après. Je le prendrai quand je voudrai. » Là, actuellement, ce que je veux, c'est te péter la gueule et prendre le titre. Et donc, Jericho qui fait en gros « Ben écoute, on n'a pas besoin d'attendre Mania. » Ce soir, là, il y a plein de Jericho-Loïc à Chicago qui veulent nous voir nous bastonner, donc ramène-toi, mec. Owens, il fait « Bah, qu'est-ce qui me retient de venir maintenant ?» Rien. Alors qu'on pensait qu'il allait partir, trouver un prétexte de heel, Owens file dans le ring, les deux qui commencent à se mettre des coups de poing, et là, rapidement, quelqu'un arrive, Tum tum tum, Samoa Joe, toujours en costard, chemise impeccable, qui se joint à Owens pour tabasser Jericho, donc ils sont à 2 contre 1. Mais une musique retentit, c'est celle bien sûr de Sami Zayn, hein, donc un autre face qui a indifférent avec Owens de longue date et avec Samoa Joe depuis peu. Donc logiquement, il arrive pour égaliser les chances avec une chaise. Ça se tabasse les uns des autres et donc on voit des matchs qui vont venir s'ajouter donc à la carte de la soirée, donc des affrontements entre Owens et Zayn et Jericho Samoa Joe. Alors avant de passer au match, qu'est-ce que t'as pensé de ce long segment d'ouverture avec donc cette suite de la rivalité qui a animé Raw pendant des mois et des mois?
Eh ben c'était un très bon segment, c'est une très très bonne entrée en matière. Owen, ça fait un boulot incroyable d'explication hein, dans son speech, que ça soit sur le fait que il veuille pas retourner, il vient de perdre sa ceinture et il explique que voilà, il veut pas y retourner directement parce qu'il veut faire mal à Jericho, et enfin il veut lui retirer son titre, donc du coup il veut lui faire mal et c'est une priorité par rapport à aller rechercher son titre. Donc là déjà, et je pense que ce genre de truc qu'on entend très rarement, des justifications de ce genre là, ça c'est vraiment genre Owen, c'est lui qui rajoute ça, je pense, au texte, ou même c'est pas du tout écrit et tout ce qu'il dit c'est lui qui improvise, mais donc voilà, c'était très bien. Ça fait tellement du bien de voir Jericho. Oh là, ouais. il a rien perdu hein, au micro, il arrive, tout ce qu'il dit, il réutilise et il modifie un poil ses gimmicks d'avant, qui étaient déjà over et qui étaient déjà limite des gimmicks de face, hein, ouais. Tellement tout le monde adorait ça. Ça marche super bien. Jericho joue tellement bien, c'est dingue. Je trouve qu'il a, pour le coup, c'est parmi tous les catcheurs qu'il y a aujourd'hui, je pense que c'est le seul où je me dirais il serait bon dans un film. Enfin, je pense qu'il a un...
Il a fait, hein, il a tourné dans différents films, des films...
De la WWE ou des vrais films?
Non, des vrais films, mais des films pas de gros public, genre MacGruber, qui était une parodie de MacGyver. Qui est
pas, il était dans MacGruber?
Ouais, il joue dans MacGruber, ouais. Il y a plusieurs superstars qui jouent dans MacGruber, mais dont Jericho. Non, c'est clair qu'il a, un charisme, ça c'est clair, et il marche.
Et surtout, hein. La transition, en fait, je trouve, entre ses expressions quand il était heel et son expression maintenant quand il est face, je trouve qu'il le fait tellement bien maintenant. Maintenant, toutes ses expressions sont, il sort le même gimmick, mais toutes ses expressions sont beaucoup plus, amicales et
souriantes. Ouais. You know, il était déjà.
Et avant, il avait un sourire, mais il avait un sourire de heel. Enfin, c'est, je trouve, il joue vraiment super bien. C'était très bien fait, et on peut se dire oui, mais de toute façon c'était déjà écrit avant le segment, enfin on voyait le truc déjà venir, mais n'empêche que c'est ce segment m'a donné encore plus envie, s'il fallait avoir encore plus envie de voir les deux. Voilà, très bien, intervention de Samoa Joe, logique, on continue à constituer le clan Triple H, qui a pas de nom pour l'instant et qui a pas d'officialisation, mais il est là, quoi. Kevin Owens, Samoa Joe.
Ça t'a pas semblé bizarre du coup que là Samoa Joe intervienne alors que c'était un 1 contre 1, Owens et Jericho pour rien, hein, juste pour un duel d'honneur et pour une histoire personnelle, et que Samoa Joe n'est pas intervenu la veille dans le match pour le titre, hein, entre Goldberg et Kevin Owens, alors qu'en plus dans le pay-per-view il y avait Mick Foley qui avait dit à Joe oui, je veux pas te voir dans le match entre Owens et Goldberg, qui était un gros sort de spoiler. Donc du coup, est-ce que c'est pas bizarre que Samoa Joe ne soit pas intervenu dans le match de la veille?
Bah non, il était interdit par Mick Foley. Oui, c'est vrai, c'est pas faux, mais
c'est le seul truc bizarre que j'ai trouvé dans le segment.
C'est vrai que c'est pas très cohérent, mais je trouve que le résultat justifie la petite incohérence, parce que du coup, ça regroupe de façon très très cohérente Joe et Zayn et donc Jericho Owens, et le classique, on entremêle deux feux, de, ouais. Et puis ils sont liés, ils sont tous liés, c'est ça. Même auparavant.
Ils sont tous liés, et là ça marche, l'espèce de configuration A4 a complètement du sens, c'est ultra cohérente, c'est nickel, et effectivement après, voilà, je trouve que les deux ont été très bons au micro, hein, que ce soit donc Jericho, Wentz, effectivement Wentz apporte cette cohérence qui est cool dans le fait qu'il va pas repartir dans un rematch contre Goldberg maintenant, parce qu'on va pas Goldberg, même le rematch c'est pas intéressant, donc faut l'expliquer, hein, c'est pas comme Roman Reigns qui oublie ses rematchs, hein. il a quand même ça en tête, Kevin Owens, il renoue avec son côté prize fighter, quoi. Je me bats pour des titres, donc là je veux ton titre américain, j'oublie pas mon rematch pour titre universel, donc c'est bien mené, il était vraiment vénère, et le Jericho, ça y est, enfin, qui peut assumer son côté face qui est en latence depuis un mois et demi, je veux dire, Jericho, c'est quand il était meilleur ami avec Owens, c'était l'ami qu'on voulait avoir, quoi. Il était toujours là, il était fiable, il était drôle, il était machin, et là, enfin, ça y est, il peut exploser en tant que, je pense, vraiment, top babyface de Raw. Il y a Goldberg qui est aussi top babyface, mais dans un autre style. C'est plus la légende. Là, Jericho, c'est vraiment que le personnage est ultra sympathique, quoi. C'est à tout point de vue. Donc,
Et ça serait bien que la WWE prenne des notes quand Kevin Owens fait ses explications-là, parce que c'est un heel, le gars, et il s'explique plus que Roman Reigns quand Reigns dit « je vais aller à la conquête de la ceinture universelle » alors qu'il a déjà la ceinture US. Là, il s'explique pas, hein, Reigns, hein, c'est juste « je veux faire ça » et puis c'est tout.
J'ai envie, je prends.
Ouais. Je veux. Donc, on va encore, enfin, ou du moins Giscal va encore gueuler. Donc Giscal, un des autres chroniqueurs de Catch Up, si c'est la première fois que vous regardez, gueuler qu'on critique Roman Reigns, mais c'est pas, enfin, c'est l'écriture de Roman Reigns, hein, c'est jamais le mec, mais voilà, c'est typiquement le gars qui ne s'explique jamais de tout ce qu'il fait, quoi, quasiment.
Ouais. Et là, Owens s'explique, notamment à mon aîné, il dit à Jericho, ok, attends, au Festival of Friendship, j'ai fait une erreur, c'est que tu l'ai laissé partir, j'aurais pu t'atomiser, j'aurais pu faire en sorte que tu sois paralysé, que tu peux plus marcher, je t'ai épargné, en fait, et je t'ai pas mis en fauteuil roulant parce que t'as une famille et moi je suis un mec bien. Donc je fais pas ça, et ça c'est encore une fois génial quand il se justifie en disant attends, j'étais sympa avec toi, je t'ai laissé marcher, quoi. Donc ça emphase encore plus le côté gros salaud de non assumé de Kevin Owens. Donc bref, les deux étaient juste parfaits, et comme tu le dis, ça donne vraiment encore plus envie qu'avant de voir cette feud. Et moi, c'est le premier match qui est dans la carte de Mania que j'ai envie de voir.
Et c'est juste le dernier truc, c'est tellement cette construction pour Mania, en fait, est-ce qu'il y avait besoin de toute cette discussion et de ce segment qui dure 15 minutes? Non. Est-ce que la construction est encore meilleure et du coup ça donne encore plus envie et ça donne encore plus de consistance à la feud? Oui. Et c'est ça qu'il faudrait qu'ils comprennent à WWE de temps en temps, c'est que oui, on a compris que tel mec veut se venger de tel mec, mais il y a besoin de plus que ça. Il y a besoin qu'il explique, qu'il donne de la consistance à pourquoi il veut se venger, pourquoi il veut cette ceinture, pourquoi, etc. Et voilà. Donc non, ça, c'était parfait.
De toute façon, même quand ils étaient ensemble, c'était un des segments les plus intéressants, divertissants, et avec deux stars qui sont aimés du public ou détestés du public, dans le bon sens du terme. Donc du coup, il faut recapitaliser là-dessus, quoi. On les avait plus depuis un mois quasiment ensemble, donc là, faut les utiliser. En tout cas, très bon départ de show. Juste après ça, il y a une coupure pub, on revient dans le ring d'un coup avec Zayn versus Owens. Donc on apprend que pendant la coupure pub, Mick Foley a fait deux matchs, Zayn versus Owens, et plus tard dans le show il y aura donc un Samoa Joe Jericho, donc un nouveau match Zayn Owens, comme d'habitude, hein, je vais pas refaire l'histoire, on en a déjà suffisamment parlé dans leurs multiples rencontres, un match pas trop long mais avec des spots intéressants, ils se connaissent par cœur, ça marche bien. La chose à retenir, j'ai envie de dire, c'est que quand même là, la victoire plus décisive et moins disputée d'Owens sur Zayn, hein. Donc Owens lui met deux pop-up bombes avec au milieu un neckbreaker assez vicieux. Donc là, une domination de Kevin Owens plus marquée que d'habitude dans ses affrontements avec Sami Zayn. Donc pour montrer ce côté vraiment genre, j'ai perdu mon titre, j'ai les boules, ça a mal se passer. Qu'est-ce que t'as pensé du match? Toi, je sais que t'es pas trop fan des redites Owens Zayn, mais rapidement.
Moi, ça m'allait parce que ça a pas duré. C'était pas encore un match d'avant main event. Souvent, ils sont avant dernier. Ils font un match de genre 15 minutes. Donc là ça va, c'était bien, enfin c'était contenu. Après j'ai un peu de la peine, enfin bon c'est nécessaire de montrer que pour Owens d'avoir une très grosse, enfin une bonne victoire bien bien clean, enfin bien claire le lendemain de sa défaite en 30 secondes. Donc c'était obligatoire qui gagne et qui gagne de façon sans être au bout du rouleau quoi. Après Zayn il faudrait quand même lui mettre une victoire quelque part. Hein. il faudrait lui mettre je sais pas comment, mais là il commence à accumuler encore et il repasse dans sa période où il se fait massacrer à droite à gauche, donc
c'est ça, voilà, qu'il devienne pas un Dolph Ziggler New Generation, donc on verra. Bon, après Sami Zayn, je suis assez confiant dans le booking qu'ils ont avec lui depuis à peu près un mois, hein. Ceux qui suivent notre émission le savent, j'aime bien la direction qu'ils font prendre, et il est en train de s'installer dans la top card face, hein, du show, mine de rien. Donc même là, s'il a perdu, bon ben c'est contre l'ancien champion universel. Ok, c'est pas le.
J'irais mid card quand même, parce que la top card c'est Goldberg, Reigns.
Ouais, il est à la frontière vraiment, parce qu'on le voit régulièrement dans les shows quand même, avoir des matchs contre des Rollins, contre des Strowman, contre des Samoa Joe, contre des Owens, ça va quoi. C'est pas, il est pas en train de se jobber contre Jinder Mahal quoi. Donc coup, il est un peu à la limite. Donc à voir ce qu'ils vont faire plus tard. Donc on verra le match Jericho et Samoa Joe plus tard dans le show. Là on va passer à la section tactile.
D'assaut.
Section d'assaut. Gloire à l'art de rue. Et oui, c'est avec Enzo et Cass qui sont un peu la section d'assaut du roster. Donc la division tactile, donc on a Enzo et Cass qui donc la veille ont perdu avec une triche du club, donc dans leur match. Ils sont en train en backstage, en train de discuter, ils tombent sur Sheamus et Cesaro, donc il y a leur classique qu'est-ce qu'on a ici, a cup of haters, donc Cesaro qui fait non, c'est une coupe de café que j'ai, donc voilà. On est parti pour 2 minutes de jeu de mots et de bâchage entre les deux équipes un peu débiles. Et donc, ils se chauffent, puisque donc Enzo et Cass ont un rematch pour le titre directement à Raw, hein, suite à au finish pas très clean de la veille. Donc voilà, donc ça nous indique simplement que, ok, chez Monsieur Cesaro, c'est pas fini en équipe, et ils sont un peu en rivalité aussi contre Enzo et Cass. On passe directement au match, Enzo et Cass contre le club. Donc Enzo et Cass arrivent dans le ring, font des blagues sur Chicago, voilà, ils sont là pour faire le show, et ils font des allusions à Jordan, bon bref, ils font de la cheap pop avec Chicago, ce qui marche plutôt bien. Et on a le club qui arrive, donc c'est le rematch de la veille. Un match pas plus passionnant que celui de la veille à mon avis. Et donc en fait la seule chose qui se passe, c'est qu'on a intervention en fait de Sheamus et Cesaro qui à mon nez arrive, et là forcément il y a à mon nez Enzo qui renverse dans le bord du ring par accident le café de Cesaro sur lui-même. Effectivement, Cesaro, il est pas content, il le poursuit dans le ring, et donc il y a Cesaro qui fait une corde à linge accidentelle sur Karl Anderson, et donc disqualification. Donc les gagnants par disqualification et toujours champion, c'est le club. Et après, derrière, il y a Bicas qui arrive et qui exploite Cesaro, Sheamus qui arrive et qui attaque un peu Enzo et Bicas, Anderson et Gallows attaquent les deux équipes. Bref, c'est un gros bordel. À la fin, il y a Sheamus et Cesaro qui sont au milieu du ring alors que tous les autres sont partis. Donc voilà. Et encore plus tard dans l'émission, pour finir sur cette tag team, donc on a Enzo et Cass qui sont en train de s'engueuler avec Sheamus et Cesaro en backstage, et Mick Foley arrive et dit qu'en gros, la semaine prochaine à Raw, va y avoir un match entre les deux équipes, et les gagnants affronteront le club à WrestleMania pour le titre. Qu'est-ce que tu penses de l'état de santé de la tag team division à Raw?
l'état de santé il est alarmant. Non mais il est pas alarmant, c'est juste qu'ils auraient pu faire ça cette semaine en fait, ce match pour enfin je Les seuls trucs qui servaient à quelque chose, en fait, dans toute cette séquence, c'était de replacer Sheamus et Cesaro dans la title picture. Donc ça a été fait, c'est bien. Pitié, faites pas ça pour ensuite refaire qualifier Enzo et Cass, quoi. Si vous faites ça pour rien. Là, ça va être nul. Le match, on s'en fout. Enfin, le match, franchement, il y a rien à dire. Mais ouais, non, mais tellement. Si... Au moins, faites-moi plaisir là-dessus, la WWE. Mettez Sheamus et Cesaro à WrestleMania pour le titre. Gagner ou pas gagner, mais mettez-les dans la carte de WrestleMania. Ouais. Ils le méritent. Ils ont fait des très très bons matchs. À eux deux, c'est la, pour moi, même au-dessus du club, c'est la meilleure tag team d'Euro. Hein. Donc voilà, Enzo et Cass, je sais pas, mettez-les en kick-off contre qui vous voulez, mais
les Shining Stars.
Ouais, voilà, ou alors mettez-les en co-présentateur avec les New Day, l'histoire que l'histoire qu'on regroupe les relous ensemble.
Mais tu te rends pas compte, ils vont être là toute la soirée. Les New Day, si en plus leur met Enzo dans les pattes, c'est foutu, quoi.
Si à la fin t'as pas acheté une glace, t'es chanceux. Voilà.
Je suis d'accord avec toi pour une chose, c'est que je perds pas espoir que effectivement le match tag team de Raw pour WrestleMania ait du temps. Et un peu de temps, et que du coup il laisse vraiment la possibilité aux quatre athlètes que sont d'un côté le club et Sheamus et Cesaro de monter un match qui est de la gueule, parce que les quatre en ont besoin, les quatre en sont capables, et pour l'instant c'est un peu pauvre. Et franchement, si à WrestleMania c'est pas ça et qu'ils donnent pas l'opportunité de faire un truc bien, faut la débrancher, hein, Tag Team Division d'Euro, hein, elle est en mort cérébrale, là, faut l'arrêter. Hein.
Ouais, et c'est pas avec Enzo et Cass que vous allez faire un bon match de WrestleMania, hein. C'est WrestleMania, quoi, c'est pas pay-per-view de.
C'est pas Fastlane.
De Brand, hein. C'est pas Fastlane, hein, arrêtez. Ne refaites pas une Fastlane, s'il vous plaît, quoi.
C'est vraiment un gimmick, ça. Ne nous refaites pas une Fastlane. On fera des manifestations s'il le faut à Stanford devant le QG de VVE. Voilà. Donc ouais, il y a un gros enjeu, hein, pour la tag team. Donc on verra la semaine prochaine, est-ce que effectivement les bookers nous auront écouté et que Sheamus et Cesaro ressortiront comme des challengers.
Est-ce qu'ils vont faire un tombé simultané? Oh, triple threat à WrestleMania. Ah, non, ils en sont capables, hein. Ils aiment bien. Et en ce moment c'est la mode, hein, les tombées simultanées. Je sais pas si t'as vu, ouais. Dernièrement il y en a eu quand même pas mal.
Oui, non mais chut, hein. Je vais couper ça au montage pour pas que les bookers voient ta suggestion et disent, ah, c'est une super idée, le petit Frenchie là, Hank, il est génial. Non, ouais. Pour finir,
à part s'il me paye, hein, moi s'il me paye, ça me va, hein.
tu serais corruptible comme ça? Ah ben bravo, belle intégrité.
Ouais, mais après je changerai les choses de l'intérieur, tu vois.
Ils disent tout ça. Bref, pour finir avec l'état désastreux de la Tag Team Division, un segment encore désastreux avec les New Day, hein, qui n'ont aucun enjeu puisqu'ils sont simplement des hosts pour WrestleMania. Donc là, ils arrivent comme la veille avec leur espèce de chariot. Alors ils ont en délire de faire des glaces, des barres glacées New Day. Maintenant, ils ont un chariot de vendeurs de glace accroché avec un vélo, un parasol à des couleurs arc-en-ciel. Bref, ils font une promo dessus, comme une défaite. Donc c'est humour potache, guignolesque pour les ch'tis d'enfants, hein. Et donc, ils ont un match contre les Shining Stars qui doit durer 2 minutes, 3 minutes, un truc comme ça. Et bien sûr, le New Day gagne. Est-ce que tu as un truc à dire pour leur défense?
Non.
Ok. Donc voilà. Ça, c'était le Tag Team Division. Passons à ce qui a été la surprise de la veille, donc de Fastlane, à savoir les Cruisers. Donc ouais. Avec un match de championnat qui a volé la vedette du pay-per-view de la veille, on retrouve les Cruisers avec deux segments. Alors je vais commencer par le segment qui arrive le plus loin dans le show, parce qu'il est moins important que celui qui était avant. On a un match entre Aria Davari contre Akira Tozawa. Donc un match assez rapide qui finalement vient à la victoire donc de Tozawa par sa German Suplex qu'on voit et qu'on apprécie semaine après semaine. Et surtout après, qui est un peu intéressant, puisque Tozawa prend le micro, prouve que même s'il est japonais, eh ben il sait parler anglais, le monsieur, hein. puisqu'il appelle Brian Kendrick à venir le confronter dans le ring maintenant. Et donc, il crie hein, avec ses « Ah, ouah, ouah, ouah !» Un peu bizarre, mais que le public semble encore apprécier. En plus, il parle avec sa espèce de protège-dents blanc et rouge, ouais. Qui ne doit pas aider à la prononciation, mais on l'entend quand même, donc ok, il sait parler bien anglais. Et donc, Kendrick arrive, lui dit qu'il ne peut pas faire de promesses, mais qu'il aura une réponse demain dans 205 Live.
Et
ce
oui.
sera la leçon numéro 5. Hein. Et c'est la même leçon que les chiens apprennent alors qu'ils se mordent la queue. Donc, ouais, il faut faire attention, en gros, à ce qu'on souhaite. Donc, voilà. Toi qui disais hier que tu espérais que les cruiseurs en donneraient du micro et pas seulement pour dire « Hey, viens demain, on va causer à 205 », et ben là, c'était exactement ça.
Et ouais. J'ai pas grand chose à dire. Rendez-vous à 205 Live.
Exactement. Par contre,
par contre, moi j'ai jamais vu un chien se mordre la queue, mais bon.
Ah ben, pourtant c'est une expression. Après, je sais pas, peut-être que c'est aux
États-Unis. Sûr que c'est pas le serpent qui se mord la queue.
Non, c'est là c'est le chien. En anglais c'est le chien. Alors, peut-être qu'en français la traduction c'est serpent, mais là il disait bien un chien, un dog. Il ne parlait pas de Roman Reigns quand on prend de dog. Hein. Il a pas dit big dog, il a juste dit dog. En tous les cas, l'autre segment cruiser qui était avant dans le show est plus intéressant. Donc ça commence avec donc Osinaris hein, qui est au commentaire au ring et il dit ouais attendez, on va revoir un package, hein, le vidéo package.
Mon gros package.
Et comme dirait un autre gars, c'est pas un bon package, c'est pas un mauvais package, c'est le package, c'est mon package. Et là il y a Corey Graves qui est mort de rire puisque package c'est un mot aussi en anglais pour dire en fait les bourses, les coronesses quoi. Donc voilà, Osinaris qui dit « J'ai un gros paquet, mon paquet il est great hein. ». Et donc on voit la vidéo d'Osinaris qui tease en fait son retour ben, dans le ring et plus seulement en commentaire. Il est là pour un match entre Rich Swann et Neville, un match de championnat, puisque Rich Swann en fait avait toujours un rematch dans les cartons depuis qu'il avait perdu son titre, il n'avait pas encaissé et donc c'est maintenant à Raw. Et là on a un match, au début ça commence, le public chante CM Punk à fond parce que par ailleurs il n'a rien à foutre de ce match. Et en fait, les deux Cruiserweight vont réussir à les gagner au fur et à mesure parce qu'ils font un match qui était putain de pas mal. Vraiment, j'ai trouvé à 400 à l'heure, avec des bons coups. Il y a notamment sur la fin un Phoenix Splash, donc c'est un splash assez virevoltant de Rich Swann qui est assez impressionnant. Il y a eu du German Suplex vachement balèze de Neville juste avant. Il y a eu des flips, il y a eu des Nearfall vraiment sympas. Il y a eu un Swanton Bomb qui était assez impressionnant de Rich Swann aussi. Un gros super kick sur la fin du match à part de Rich Swann. Pour un Nearfall, hein, quasiment tombé. Swann qui va sur le haut du ring, mais Neville l'empêche en donnant un gros coup de boule, un gros kick dans la tête. Et donc là, on a Neville qui va faire une transition vers sa prise de soumission, les anneaux de Saturne. Et donc, Rich Swann va finir par abandonner, mais à la suite d'un match qui a été plutôt assez impressionnant. J'ai trouvé pour un match de weekly des cruisers. Et donc, à la fin du match, Osinaris vient sur le ring comme il le fait depuis 2-3 semaines pour interviewer le gagnant, donc Neville, le King. Et donc, le public commence à gueuler, non pas CM Punk, mais Austin Aries, qui forcément commence à énerver un petit peu le champion et le roi autoproclamé Neville. Donc, en fait, Neville qui dit en gros, il n'y a personne dans ce roster Cruiserweight qui peut m'arriver à la cheville. Osinaris qui fait, t'es sûr, il n'y a vraiment personne? Là, le public qui redouble de chant Osinaris, Neville qui fait « Attends, tu veux quand même pas dire que toi, tu pourrais être quelqu'un qui m'arriverait à la cheville ?» Bah, tu sais, apparemment, Chicago, ils sont pas d'accord avec toi. Donc là, ça commence à se toiser et Osinaris qui fait « Ok, il enlève ses lunettes. Moi, je veux juste faire mon boulot, j'ai une dernière question. » Bon, en fait, c'est pas vraiment une question. Et là, paf ! Gros coup de micro et de poing dans la gueule de Neville. Donc il y a un petit coup, des coups qui sont échangés. Harris qui donc fait un spinning forearm et Neville qui part en retraite. Et donc on verra dans le match qui suivra qu'on a décrit plus tôt. Eh bien, Osinaris ne sera plus au commentaire, ce qui acte certainement définitivement son retour à la compétition. Qu'est-ce qu'on a pensé?
Ouais, trop bien. Non mais vraiment, c'est trop bien. C'est Osinaris, moi j'en attendais des très bons matchs à NXT et il a pas eu le temps de monter dans la carte avant d'être blessé. C'était super sérieux hein, ça a duré combien de temps sa blessure, au moins 6 mois quoi.
Ouais, quasiment ouais.
Donc voilà, je sais plus ce qu'il avait à l'œil, mais c'était effrayant d'ailleurs.
Ouais, il a encore une petite marque, hein, on l'a vu, il a enlevé ses lunettes, il avait encore une petite marque. D'ailleurs, Neville lui fait une allusion. Attends, je vais te faire le, notre œil au carré aussi, mais il a eu un gros truc bien sale.
Mais ouais, j'espère qu'ils vont avoir un contraint du coup à WrestleMania.
Ouais.
Ou je sais pas comment ils pourraient faire ça. L'embêtant en fait avec les cruisers, c'est qu'on a l'impression qu'ils changent d'avis. Enfin, au niveau du booking, ils changent d'avis sur la top card toutes les deux semaines où ils font. Ah, finalement, la feud, ça va être contre Swan. Ah non, finalement, en fait, ça va être contre Gallagher. Ah non, finalement. Donc, en fait, ça change. Ouais, voilà.
Ils testent beaucoup les gens. Ils ont pas testé trop avant, ni à NXT, ni rien. Donc, ils savent pas trop. Après, au Cinéry, c'est un gage de qualité.
Ouais,
le
voilà.
Mec, et au micro, il a une carrière longue comme le bras. Il a été ultra champion la TNA. Si vous connaissez pas, vous allez apprendre à le connaître. Vraiment, c'est dans le niveau supérieur de du cruiser roster sans conteste quoi. Donc effectivement, la manière contre Neville, c'est alléchant. Moi, j'ai envie de voir ça. Hein.
Ils vont mettre Gallagher et Swan un petit peu en pause de côté histoire qu'ils travaillent un petit peu le micro. Bon, Gallagher, il est bon au micro, mais tout ce qu'il fait au micro, c'est une petite minute avec son langage et ses blagues, etc. Mais on le voit pas vraiment construire quelque chose de plus sérieux. Je suis sûr qu'il pourrait, mais bon, pour l'instant, je pense qu'il les a pas encore convaincus. Non. Donc oui, c'est une super nouvelle. Ouais. Ça peut donner encore un grand match cruiser à WrestleMania. Hein,
Au lendemain d'un très beau match à Fastlane, là dans ce show on a eu deux segments cruiser, ce qu'il faut absolument pas faire. Donc comme tu disais, le Kendrick qui dit à Tozawa, rendez-vous demain à 205. Et par contre, ce qu'il faut faire, un match vraiment sympa, court mais intense entre Swan et Neville, et derrière un segment micro qui met en place une nouvelle rivalité qu'on a envie de voir avec un heel désigné, un face désigné favori du public. Bref, là, c'est pas un sans faute, mais en tout cas, ils font du bon boulot depuis deux semaines.
Et ils font l'inverse de ce qu'ils faisaient il y a quelques semaines, où là, car il y a quelques semaines, c'était regarder 205 pour voir le match de qualification pour le titre, enfin pour affronter le champion, etc. Et c'était voilà, finalement, on mettait le match super important à 205 Live et je suis désolé de le dire encore aujourd'hui, mais genre 205 Live, non, ça va pas marcher. Hein, arrêtez. Il faut la seule façon. Enfin, on en a déjà parlé, mais la seule façon de faire marcher 205 Live, soit vous en faites vraiment une émission seule, condensée d'une demi-heure, genre filmée à Orlando ou un truc comme ça. Ou alors vous intégrez ça à NXT d'une façon ou d'une autre. Un match, enfin je sais pas s'ils non, ils auraient pas la place.
C'est compliqué parce qu'ils attaquent déjà le roster anglais, hein. Pour ceux qui n'ont pas suivi, ils ont fait un championnat comme les Cruisers mais sur les anglais il y a pas longtemps à WWE, et à NXT maintenant une semaine sur deux on a un match avec le roster anglais, donc clairement ils ont pas la place d'intégrer les Cruisers. Je pense que de toute façon 205 Live, c'est pour eux, c'est du contenu en plus. Que ça fasse beaucoup de vues ou pas, ils s'en fichent. Ça fait du contenu exclusif. Ça fait un contenu par semaine avec des nouveaux matchs.
Oui, puis ça coûte pas très cher parce que c'est juste, on garde les lumières allumées après SmackDown. Ouais. Et
en attendant, et voilà. Ça leur fait deux segments par semaine à Raw. Ce qui leur fait une grosse demi-heure, trois quarts d'heure sur les trois heures de Raw à combler. Donc, pour eux, je pense que ça leur coûte pas grand chose et c'est pas une logistique énorme. Donc du coup, ils vont continuer, même si ça ne remporte pas, à mon avis, une grosse adhésion du public. Après, peut-être qu'il y a un public niche pour ça, mais c'est vrai que pour ma 205, je connais personne qui regarde.
Mais tant que ça reste un... Si ils continuent sur cette voie où ça reste un show, où c'est juste, t'es fan de ces catcheurs-là, bah, il va catcher un peu plus demain, où il y aura un face-à-face que t'as pas encore vu... Mais on garde tout ce qui est vraiment important pour Monday Night Raw.
Ouais.
Moi, ça me va.
Ouais.
Donc, ou même le titre en jeu à 205, mais qui change pas de main.
Ouais. De toute façon, ils font des vidéos récap à Raw quand il y a un truc important qu'on n'aurait pas vu à 205. Voilà, ils font un récap, donc du coup, ça va. On arrive à suivre. Donc voilà. À voir. Mais en tout cas, les cruisers pour l'instant là, entre hier soir Fastlane et ce soir Raw, plutôt pas mal. On passe à autre chose. autre calibre, en tout cas pas un match c'est sûr puisque ça dure plus de 20 secondes puisqu'il s'agit d'une nouveau champion universel, notre nouveau champion universel à vous et nous,
ouais.
Donc Goldberg qui arrive, ouais, donc avec sa pyrotechnique d'habitude etc, il a le titre. Il y a une réaction, une réception qui est un peu partagée, hein. C'est pas les gens sont pas en furie genre ouais c'est génial Goldberg a le titre, non c'est pas vraiment ça. On entend des chants CM Punk d'ailleurs, hein, voilà. Donc il dit que en gros, ce titre, il est à vous, il est au public parce qu'il aurait jamais pu faire ça sans nous. Évidemment, de rien Goldberg, hein, ravi de t'avoir aidé. La vérité, c'est ce soir, il est au milieu et qu'il est humble parce que voilà, c'est, il est le champion universel de WWE et c'est notre champion à nous. Encore une fois, il y a encore de la public qui continue à le huer à cause de ça, enfin avec ça. Et là, les chants CM Punk redoublent. Jusqu'au moment où arrive Paul Heyman. Paul Heyman qui arrive, qui fait son truc classique, Ladies and Gentlemen, blablabla. Me confondez pas avec quelqu'un qui arriverait pour serrer la main de Goldberg pour le féliciter, puisque c'est pas moi qui dois avoir les mains qui s'agitent, c'est plus Goldberg, parce que franchement, Goldberg, il va rencontrer mon client Brock Lesnar à WrestleMania, et en fait, il est pas venu seul ce soir, Paul Heyman, et donc la musique de Brock Lesnar retentit, Brock arrive, les gens pop très fort pour Lesnar, évidemment, hein, c'est toujours un événement de le voir. Donc Lesnar qui fait des tours tel un requin autour du ring et autour de Goldberg, et donc du coup il va dans le ring, les deux hommes se regardent, se toisent, tels les monstres qu'ils sont, et donc il y a Heyman hein, qui continue à faire le micro, c'est pas Lesnar qui va parler, et en gros il dit que en fait à WrestleMania les deux seront dans le ring, mais il n'y en a qu'un seul qui sera le vainqueur, l'autre sera un gros loser, sera un gros perdant. Heyman va pas faire de prédiction, mais il fait un spoiler. Le spoiler, c'est pour WrestleMania, à la fin du match, il y aura un nouveau champion régnant et conquérant et indisputé, c'est Brock Lesnar. Là, Brock Lesnar qui tend sa main vers Goldberg, et Heyman aura ajouté, à la fin du match, tout le monde pourra dire, en parlant de Goldberg, c'est lui, c'est la bitch, c'est la petite salope de Brock Lesnar, de Goldberg, pardon, et là, Brock Lesnar qui chope Goldberg dans un F5, et Goldberg qui est par terre, séché, et qui crie de douleur, et c'est la première fois qu'on voit Brock Lesnar vraiment dominant face à Goldberg. Donc voilà, qu'est-ce que t'as pensé de ce premier affrontement qui tease le main event de WrestleMania?
Ouais, c'était bien fait, c'est la première fois qu'on voit Goldberg prendre un bump. c'est son premier vrai bump depuis le début,
depuis son retour, évidemment pas avant, mais
ouais, là, depuis son retour. Donc voilà, j'espère qu'il va bien, j'espère qu'il s'est entraîné à tomber sur le ring. Mais donc voilà, oui, non, j'ai pas grand chose à dire sur ce segment. C'était plutôt bien fait. Après, c'est toujours compliqué de justifier après une défaite, et techniquement deux défaites si on remonte au dernier match il y a je sais pas combien d'années, de justifier que Lesnar il a le droit à son troisième match. Mais voilà, moi je suis pas, enfin on a déjà parlé dans la vidéo sur Fastlane, je suis pas plus excité que ça par le match parce que je sais que ça va soit durer 30 secondes soit durer 1 minute 30. Donc voilà, et ouais. je suis pas de ceux qui, même si j'étais particulièrement pour une ou l'autre des superstars, je suis pas de ceux qui sont heureux que leur superstar favorite gagne si ça a aucun poids, quoi. Il y a aucune bataille, il y a aucune lutte, il y a aucun rapport de force. Aujourd'hui c'est bouton rouge, demain c'est bouton vert, aujourd'hui c'est bouton rouge, tu vois, c'est un peu ça les matchs, quoi.
C'est clair. Là sur le segment, ce qu'on peut voir, c'est que oui, effectivement, c'est la première fois qu'il se fait vraiment dominer à mort là, Goldberg, et bien sûr dans le ring, la première fois qu'il prend un bump, donc un F5, et aussi au micro, quoi, hein. Enfin, au micro, il est pas bon, je trouve, là il a pas été bon ce soir. quand il est revenu, Goldberg, effectivement, il y avait une excitation. Il a fait des promos un peu tonitruantes. Je suis de retour. Je suis un super héros. Je peux gagner le Rumble. J'ai encore un règne de champion en moi. On y croyait, mais ça depuis. Une fois que le retour s'est estompé, c'est pas trop ça au micro. Et là, il s'est fait enterrer par Eman, qui lui joue de la partition un peu hardcore. Hein, le fait de dire ouais, tu seras là, on dira de Goldberg que c'est la petite salope de Brock Lesnar juste avant le F5. C'est on est à la limite du PG rated hein, encore là. Donc
c'est leur vieille, ouais. C'est leur vieille technique et c'est la seule vulgarité qu'ils ont le droit de sortir. Alors dès que c'est Je commence à moi les bitch maintenant, enfin je veux dire ça sert plus à rien de les sortir parce que on sait très bien que vous sortez ça soit c'est Vince McMahon qui dit bitch, soit c'est Roman Reigns, soit c'est enfin bref, voilà, on voit à peu près qui a le droit de le sortir, c'est toujours pour le main event quasiment, donc
c'est vrai.
C'est un peu téléphoné.
Moi, j'ai bien aimé.
Et puis, il n'y a pas vraiment de raison en plus.
Non, enfin, voilà, ça va avec le côté. Ok, mon client Brock Lesnar va t'humilier à WrestleMania. Et j'aime bien, du coup, ça se trouve, ça donne un petit côté cool, un peu classique, mais cool finalement. Là, Brock Lesnar, Eman qui délivre une méchante promo efficace, un petit bitch placé, un F5 Goldberg allongé. Tu fais. Ouais. Ça c'est un peu de la gueule, donc du coup bon voilà, rien de nouveau sous le soleil on va dire, mais bon voilà, un segment pas très long qui est pas désagréable non plus, contrairement à un autre segment qui lui est beaucoup plus long, la santé de la division des femmes. Alors un signe à WWE quand on a plus de 3 personnes qui arrivent sur le ring pour essayer d'expliquer ce qui est en train de se passer, c'est que c'est le bordel et que c'est un peu n'importe quoi, et ce segment c'est un peu un bon exemple. Donc, la veille à Fastlane, ce qui s'est passé, eh bien, Bayley a gardé le titre, a gagné contre Charlotte suite à une intervention un peu discutable, voire carrément discutable, de Sasha Banks. Et donc, il est temps, là, de définir qui sera l'adversaire de Bayley pour WrestleMania. Donc, Charlotte qui a sa streak hein, d'invincibilité qui a été brisée. Donc, il y a Mick Foley qui est dans le ring. Donc, voilà, il y a Bayley qui arrive. Les gens sont contents. Bravo, Bayley. On t'aime bien. Il montre le replay de la veille, bien sûr, et des photos fixes. Hein. C'est pas de vidéo parce que ben claquez vos 10 dollars pour le network si vous voulez voir la vidéo, évidemment. donc voilà, Bayley dit en gros qu'elle essaie de comprendre ce qui s'est passé hier avec Sasha Banks qui est arrivée, qu'elle avait demandé à Charlotte de laisser Dana Brooke dans les vestiaires, et c'est ce qu'elle a fait. Et Sasha Banks arrive pour l'aider. Elle sait pas trop quoi en faire, mais bon voilà, elle se concentre sur WrestleMania, elle veut savoir qui c'est son adversaire. L'année dernière, elle était dans le background, dans les backstage hein, pendant WrestleMania, pendant que Lita introduisait la nouvelle ceinture, la Women's Championship. Et cette année, c'est son moment à elle d'avoir son main event entre guillemets, son WrestleMania moment. Donc elle attend vraiment ça. Le signe, encore une fois, regardez, il est là, il est beau. Voilà. Maintenant la question, c'est qui c'est qu'elle va affronter. Là, Sasha Banks arrive. The boss, where Bayley. Donc c'est une bonne question, Bayley. Qui c'est qui va t'affronter? Moi j'ai la réponse. Donc voilà, Banks dit qu'en gros il connaît Charlotte, que même si elle a envoyé Dana Brooks dans les vestiaires, ça veut pas dire qu'il y aurait pas une embrouille. Donc en gros pour prévenir de ça, eh ben Sasha Banks est arrivé pour s'assurer que tout soit clean. Ok, mais WrestleMania, eh bien c'est simple, c'est Sasha Banks hein, qui va être l'adversaire, et Chicago est d'accord avec ça, et donc là, Chicago commence à faire un yes, yes, yes chance. Mais la musique de Charlotte, la reine détrônée, malheureusement détrônée, donc elle arrive, avec Dana Brooke. Donc elle est sarcastique, hein, puisqu'elle dit que voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est n'importe quoi la veille, et que de toute manière, elle a été volée finalement de son titre et de sa streak en pay-per-view, donc ça devrait être elle, la contender hein, pour WrestleMania. Pour pour clarifier tout ça, parce qu'il n'y a aucune solution qui semble émerger, une autre musique retentit, c'est celle de Stéphanie McMahon, qui arrive, et donc qui du coup, en gros, elle n'a pas l'air très contente. Il y a forcément les chants CM Punk qui redoublent triple d'intensité. Donc là, un petit pic à Chicago, elle dit « Ok, Chicago, vous êtes comme CM Punk, vous êtes des gros losers. » Donc elle se prend une bonne bâche, hein, voilà, ça s'est évacué. Ils sont toujours en train, Chicago, d'être pour la mauvaise personne. Avant, c'est CM Punk, là, c'est Sasha Banks. Donc, il y a une discussion. Et en gros, ce qui ressort de là, c'est que finalement, il va y avoir un match, là, ce soir. Bayley contre Sasha Banks. Si Bayley gagne, eh bien, à WrestleMania, ça sera Charlotte contre Bayley pour la revanche. Et si Sasha Banks gagne, eh bien, ça sera un triple fridge, comme dirait Ringside, un triple menace. Et donc s'ensuit le match Bayley contre Sasha Banks. Bon, un match qui est pas très 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 long. Au final, il n'y a pas eu de botch comme la veille, hein. Bayley qui avait un peu botché une séquence vraiment pas jolie. Là, il y a pas ça. Un match assez classique. Au final, sur la fin du match, on a Banks qui est en position de Bank Statement de soumission à Bayley, mais Bayley va jusqu'aux cordes, tombé de coude. Sasha Banks place son back sabre et remet en prise de soumission Banks les mains. Il y a Dana Brooke qui essaie d'arriver pour distraire l'arbitre. Il y a Banks qui l'envoie chier. Et en fait, Sasha Banks qui fait une sorte de roll-up sur Bayley et la met encore en soumission. Il y a la confusion et au final, Bayley abandonne. Donc Sasha Banks gagne et donc ce sera un match triple menace pour WrestleMania. À la fin, bah, y a Charlotte qui est pas contente, qui arrive, qui met un gros coup dans la gueule à Sasha Banks, puis fait aussi un gros coup dans la gueule à Bayley. Elle tient le titre.
Big boot.
Big boot. Donc c'est moi qui vais regagner mon titre. Vous êtes gentilles les filles, mais c'est moi la reine. Et donc ouais. Elle s'en va en promettant qu'elle sera 5 fois championne féminine. Qu'as-tu pensé de ce segment et de ce match?
Mis beaucoup de temps pour faire quelque chose de simple quand même.
Ouais.
ça a pris son temps. Il va falloir arrêter de laisser Bayley parler pendant 5 minutes de la même chose toutes les semaines. Hein. Faut qu'elle arrête avec mon rêve, WrestleMania, mon rêve, Lita, Trish Stratus, Lita. Oh, c'est bon, on a compris. Apparemment, il y a eu que 2 catcheuses féminines dans l'histoire de la WWE. Hein. Elle a oublié tout le reste. Donc voilà. Le match, j'ai pas trouvé ça fou. Tu disais, il y a pas de botch. Par contre, je me souviens bien d'une belle roulade vers rien du tout de Sasha Banks où. Elle fait une roulade pour arriver, enfin c'est pas vers rien du tout, mais je crois qu'il y a Bayley qui est le long des cordes et Sasha Banks qui à un moment roule vers elle, mais enfin et se met en position, tu sais, la bonne vieille position comme ça.
Ah oui, j'attends. Ouais.
Voilà, j'attends que tu me plaides dans telle posture et ça okay. C'est un classique.
Un manque de synchronisation. Ouais.
Ouais. Je trouve pas qu'elles ont une alchimie terrible en fait là. Mais elles en avaient. Pourtant, ouais, voilà, elles en avaient une. Peut-être que ça fait longtemps, elles n'ont pas repris leurs habitudes, tout ça. Mais
en fait, oui, pour ceux qui n'ont pas regardé, Sasha Banks et Bayley ont eu parmi les meilleurs affrontements féminins NXT qui ont marqué l'histoire récente. Après, ce qui changeait, c'est que Sasha Banks était clairement heel, donc ça doit se ressentir aussi dans ses mouvements, son attitude. Et encore une fois, hein, je pense qu'à WWE, on se rend compte vraiment de ça depuis qu'il y a NXT. On a déjà vu des gros matchs entre différentes personnes. Là, on les revoit dans le main roster et on se dit c'est moins bien qu'avant. Bah, c'est parce qu'en fait, c'est des matchs qui sont un peu intermédiaires où on va pas avoir le même temps, les mêmes enjeux qu'à NXT. Donc là, c'est un peu ça souffre.
Oui, c'est beaucoup. Et puis à NXT, c'est beaucoup plus espacé les matchs en fait. Ouais. Donc du coup, on les voit pas
toutes les semaines.
On voit pas la même rencontre, c'est impossible de voir la même rencontre toutes les semaines et très souvent on revoit pas genre une top star, on peut la voir une semaine et on la voit pas avant deux semaines après quoi.
C'est une semaine sur deux ou sur trois, ouais, tout à fait. Ouais.
Donc ouais, j'ai pas trouvé ça terrible, voilà, c'était prévisible. Banks triple frit, donc du coup ils font pas confiance à Nia Jax.
C'est pas dit, il reste encore.
Je sais pas trop comment ils pourraient la caser. Hein. Je vois pas vraiment de raison pour laquelle ils caseraient Nia Jax là-dedans. Mais Bon après, c'est aussi bien aussi. Enfin, les triple fret, généralement c'est pas mal. Et puis ça évite. Enfin, quand c'est un fatal four way, c'est très souvent regrouper 2 contre 2 machin, etc. Alors que triple fret, c'est beaucoup plus speed, quoi. C'est beaucoup plus. Donc ouais. J'aime bien l'affiche, mais le seul truc que enfin j'ai aimé le fait que on mette Charlotte. Bon après c'était pareil, c'est pas exceptionnel, mais c'est bien qu'ils aient mis Charlotte en grande pas vainqueuse, mais en au milieu du ring, dominante à la fin.
Ouais. Oui, pour rattraper un peu sa perte d'invincibilité complètement minable de la veille. Ouais. Un scandale, mon monsieur.
Deux broke kicks. Ouais. Les broke kicks de Charlotte. Donc voilà. Et puis finalement, ça montre aussi que si on a regardé toute la feute de Charlotte et Banks et du coup même Charlotte et Bailey, etc. Finalement, maintenant. Peut-être aussi parce que Banks est devenu face, mais maintenant la personne la plus violente, je dirais même au-dessus de, parce que Nia Jax c'est beaucoup genre de portée, etc.
Oui,
mais vraiment de la violence pure au niveau des coups de poing et coups de pied, c'est Charlotte. Hein.
Ah ouais, complètement.
Donc voilà.
Moi je l'aime d'un coup de violence, Charlotte. Donc on verra finalement l'enjeu pour WrestleMania, pour la division du féminin, c'est est-ce qu'ils mettront les Ajax pour faire un Fatal 4-Way ou pas. Ben, les semaines prochaines, nous le dirons. On passe maintenant à une petite vidéo de Seth Rollins qui se rétablit, hein, qui est en thérapie. Donc on a déjà eu la même l'année dernière, on a eu une cette année. Pas grand chose de plus que ok, c'est très long, que c'est très dur et qu'il a beaucoup de cœur à l'ouvrage. Et derrière on a une interview de Triple H, hein, par satellite, dans la salle d'à côté visiblement, certainement. Donc Michael Cole qui interview Triple H, donc Triple H qui commence à dire oui, vous avez vu quand même, je voulais remercier la WWE parce que franchement on donne à nos stars qui sont blessés le meilleur service médical du monde. D'ailleurs ce médecin, vous avez vu, c'est le meilleur du monde, best in the world. Donc là, petite pique directe effectivement.
Moi je l'ai pas vu comme ça, hein.
CM Punk si, parce qu'en fait pour la petite histoire, CM Punk dans ses embrouilles post WWE a un procès en latence avec un des médecins, ouais. Parce que dans son podcast avec Colt Cabana qui a fait couler beaucoup d'encre, il a critiqué un des médecins de WWE qui voulait pas le soigner pour un staff qu'il avait une infection, et donc le médecin en question lui a porté plainte contre CM Punk. Et là, de fait que Triple H dise ce médecin is the best in the world, CM Punk Chicago, c'est obligé, que c'était un petit jab à ça. Mais bref, vous verrez une pique ou pas, qu'importe, puisque là en gros Triple H dit que en gros bah ok, bah Seth Rollins s'est menti à lui-même et a menti à tout le monde en disant qu'il était the man, l'homme. C'est un mensonge évidemment. Lui Triple H il a été appelé the game, the cerebral assassin. Mais voilà, il n'avait pas besoin de s'appeler lui-même le mec parce qu'il était le mec. Et Seth Rollins, c'est qu'une fraude finalement. Donc,
C'est une fraude.
C'est une fraude. Oui, c'est un.
C'est une fraude,
monsieur. Portez plainte.
C'est une fraude fiscale, monsieur.
Du coup, c'est une fraude fiscale et surtout, bah, il pourra compter ce qu'il veut. Il sera pas à WrestleMania, Rollins. Faut pas. Ça va être c'est un rêve qui se fait, mais c'est pas ça. Et en fait, si ça, il se montre à WrestleMania, ça sera un cauchemar.
Ce sera la dernière chose qu'il fait de toute sa vie. En clair, il a répété la même chose que la semaine dernière.
Exactement. Ça sera un cauchemar. Voilà, ça sera la dernière chose qu'il fera dans un ring. Voilà. Quelque chose à dire sur ce segment qui n'apporte absolument rien.
Non, mais il a dit la même. Non, voilà, il a dit la même chose que la semaine dernière en fait. C'est juste à part le fait que oui, on a les meilleurs spécialistes, etc. En fait, il a mis over la WWE.
Le staff médical, ouais. Je pense que c'était uniquement Hunter qui voulait faire un pic à Chicago et CM Punk. C'est pour ça. Ça ne fait rien d'autre. Sinon, dans les... ouais.
Non, mais voilà, il y a rien eu de nouveau. Il n'y a pas de menace particulière. Il a pas précisé qu'est-ce qui allait se passer ou pas se passer, etc. Donc
si,
voilà,
ce sera pas intéressant. Pire chose pour cette Rollins, voilà ce qui va se passer. Mais ouais, on reste dans la menace. Et surtout, ne viens pas, Rollins. Hein. Surtout, ne viens pas. Je te défends de venir. Hein. Te pointe pas.
Il a déjà dit qu'il allait venir. Donc du coup, je vois pas pourquoi il a un doute là-dessus.
Il faut essayer de faire pression, une pression psychologique, une menace. C'est une méthode de management de la WWE. Hein. Ils font ça avec Mick Foley toutes les semaines. Donc voilà. Ouais, on s'en fout un petit peu. Autre chose dont on se fout, on a eu un petit vidéo package pour le makeover, non pas d'Emma en Emmalina, mais de Emmalina en Emma. Hein, souvenez-vous, voilà. Après des semaines de hype, elle est arrivée en.
Non, mais on n'est pas obligé de récaper, hein, franchement.
Mais voilà, donc Emma va revenir version badass comme elle faisait avant, et c'est très bien. On a aussi une petite vidéo pour nous dire que le dernier entrant au Hall of Fame de cette année sera Rick Rude, The Ravishing Rick Rude. Donc voilà, donc un ancien superstar qui était un mec plutôt beau gosse qui faisait vibrer les petites minettes des années 80 et 70. Donc on a notre promotion 2017 du Hall of Fame maintenant qui est complet. Ceci nous amène au match qui était annoncé dès le départ, dernier match de la soirée, Samoa Joe contre Chris Jericho. Donc premier affrontement de ces deux-là, un match pas très long, très long, très long, très long. De petits échanges, noter un petit manque de rythme pour Jericho. Alors je sais pas si parce que ce petit mois de hiatus l'a un peu rouillé, comme ils disent, la rouille du ring, ou si c'est Samoa Joe qui est tellement dynamique, qui a un rythme effréné que Jericho suit pas, mais j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de latence. Quoi qu'il en soit, sur la fin du match, après un enziguri donc de Jericho comme il sait faire et un dropkick qui a projeté Joe en dehors, il y a eu un autre springboard dropkick de Jericho. Jericho qui essaie de faire un baseball slide, hein, cette projection où il se lance les pieds en avant sous la première corde du ring, mais Joe évite, chope Jericho, le met dans sa prise de finition, la coquina cutch, la prise coquine, comme tu dis. Et donc il la maintient pendant un long moment, l'arbitre commence à compter, et à peu près quand il en est à 8, Joe lâche la prise, remonte dans le ring, et Jericho reste inanimé dans le ring quand l'arbitre a compté 10. Donc victoire par compte à l'extérieur, des comptes à l'extérieur, Samoa Joe. Joe reva à l'extérieur pour ce qu'il n'a pas fini avec Jericho, mais Jericho se réveille et lui met un code breaker et donc Jericho reprend un peu de sa splendeur et pendant que Samoa Joe recule un peu grimaçant et râleur. Qu'as-tu pensé
du match? Break his code.
Il a cassé le code de la mâchoire. Qu'est-ce que t'as pensé de ce premier code. Petit match entre Joe et Jericho?
Bon, ça allait, c'était pas exceptionnel, j'ai rien noté de fantastique. Là pour le coup le finish est bien, le finish est vraiment bien. C'est on a l'impression vraiment que il y a vraiment deux types de bookers à la WWE et du coup hier il y avait les mauvais enfin hier à Fastlane il y avait les mauvais, les gars qui comprennent rien au booking, enfin qui font les choses un peu n'importe comment, et là ce soir du coup pour le coup ce match c'était du booking très bon. Après peut-être c'est aussi le respect des superstars, enfin de certaines superstars. Là ils ont respecté Jericho avec ce code breaker qui du coup la séquence se termine avec la musique de Jericho. Oui. Donc on nous signale que finalement c'est une défaite. Voilà, c'est une défaite, mais il en a encore en réserve. Ouais. Et
puis, Fanny, quoi. Voilà, il a perdu. Voilà. Pas Fanny. Moi, je trouve qu'il y a.
Pourquoi Braun Strowman n'a pas fait un code breaker à Roman Reigns?
J'aurais aimé voir ça. J'imagine un code breaker. Oh mon
il
Dieu.
Il est capable de tout.
Un Red Arrow de Braun Strowman.
Non, mais le gars, il fait 120 kilos, il fait des drop kicks. Hein,
ouais. Donc là encore un finish sympa et vraiment je trouve original, c'est assez rare, j'ai pas de mémoire récente de ces trois dernières années, effectivement quelqu'un qui fait une prise de soumission à l'extérieur jusqu'à quasiment la fin du décompte de l'arbitre et qui lâche, qui rentre dans le ring afin d'avoir une victoire un peu facile, un peu à la heel, mais clean, hein.
Un heel intelligent, cool. Enfin,
qui utilise les règles
n'importe quel match comme ça ces dernières années, ça se termine par juste le heel qui se fait disqualifié pour qui reste dehors en fait, qui massacre l'autre et puis il se fait disqualifier, enfin le nombre de fois où on a vu ça. Et
ou alors parce qu'il continue à l'extérieur à le tabasser, il s'en fout de gagner, non, il veut des victoires à son palmarès, et je trouve que la veille à Fastlane, donc la manière dont il gagne le match contre Sami Zayn, la même prise de finition mais dans le ring jusqu'à ce que Sami Zayn n'abandonne pas mais tombe dans les vattes et que l'arbitre arrête, c'est des finis sur Samoa Joe qui sont intéressants, qui renforce son côté heal, où il gagne clean et de façon intelligente, et en même temps en préservant un peu les faces. Parce que la veille, c'est l'arbitre qui déclare la défaite de Zayn. Zayn ne couronne pas, donc ça te préserve un peu. Là, Jericho s'est fait prendre dans le piège, Coquina Clutch, et finit par un code breaker, ça te préserve aussi. Bref, pour l'instant, le booking des matchs de Samoa Joe est plutôt savoureux par rapport au reste du roster. Ouais. Donc, pourvu que ça dure. Ouais. Pourvu que ça
dure. Comme quoi, hein, c'est pas que c'est le protégé de Triple H, c'est pas que du kayfabe.
Ouais. Ah ouais. Il le traite bien pour l'instant, je trouve, Joe, en tout cas. C'est, ouais. C'est plutôt cool. Donc voilà, le match n'est pas sans cesse encore une fois, mais bon voilà, ce petit finish original qui rapporte un peu de fraîcheur dans des trucs qu'on a vu et revu et revu. Et enfin, on passe au dernier segment de la soirée. On l'avait vu un peu avant, le gros chien Roman Reigns qui était backstage avec Charlie Caruso, donc l'interview. Donc puisqu'il y avait Braun Strowman plutôt qui avait dit « Oui, je veux finir ce que j'ai commencé hier ». Ok, donc Reigns qui dit « Bah écoute, si tu me veux, gars, je serai dans le ring à la fin du show parce que je me book en main event du show. Hein. Je fais des pro booking. On va continuer. J'ai pas de match, mais je squatte le dernier segment. C'est comme ça. »
L'auto-booking.
Exactement. Et donc, à la fin du show, on a Braun Strowman qui arrive vraiment pas content parce qu'il a perdu la veille clean contre Roman Reigns à Fastlane. Donc, Braun qui crie « Roman, t'as été chanceux hier soir. Mais ta chance, il n'y en a plus maintenant. Reviens, je vais te démembrer. » En gros, il veut un match ce soir. Voilà. Et donc, du coup, Strowman dit « Oui, Chicago ne t'aime même pas, Roman Reigns. » Et là, il y a plus de 10 000 personnes en public qui font « Yes, 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 yes !» Donc voilà, comment Strowman chope de la cheap pop, ben voilà, en disant que vous n'aimez pas Strowman Reigns, et c'est bien ça. Et donc, il dit « Viens et on va combattre !» Et là, la musique retentit, mais pas celle de Roman Reigns, du moins pas jusqu'au bout, puisqu'une autre musique retentit, une cloche, celle de l'Undertaker, The Dead Man qui débarque lentement vers le ring. Là, Chicago explose parce que s'il s'y attendait pas, évidemment. Au bout de ces deux minutes syndicales d'intro, l'Undertaker est dans le ring, regarde Braun Strowman, le public exulte et crie « Holy shit, holy shit, holy shit !» Et Braun Strowman, au bout d'un moment, eh ben, se casse. Un peu apeuré par cette présence inquiétante de l'Undertaker. Donc, l'Undertaker reste seul dans le ring, sa musique retentit jusqu'à ce qu'elle se fasse interrompre par celle du gros chien Roman Reigns qui débarque. Donc finalement, là, Chicago le eut comme un malpropre. Roman Reigns regarde l'Undertaker sur la rampe, puis l'Undertaker le regarde, il se regarde, pas un mot échangé. Roman Reigns qui arrive finalement et qui dit en gros, écoute, avec tout le respect que je te dois, maintenant c'est mon territoire ici, c'est plus le tien. Hein, this is my yard, comme disait Undertaker avant. Et là, l'Undertaker se rapproche. Regarde, quoi donc? Vous savez ce qu'il y a au-dessus? Le signe de WrestleMania? Cette méthode du Undertaker de communiquer sans prononcer une seule parole, hein, ce qui nous fait depuis 4 ans maintenant, c'est je te regarde, le signe de WrestleMania, toi et moi, c'est un date. Et donc, du coup, l'Undertaker chope Roman Reigns à la gorge, lui fait un shock slime, la foule qui est en exul de plaisir, et puis l'Undertaker qui s'en va du ring. Donc, qui lève son bras et c'est la fin du show. Et donc, ça nous indique bien ce qu'on pensait venir. On utilise un Roman Reigns Undertaker pour Mania. Qu'est-ce que t'as pensé de cette conclusion?
Je sais pas quoi en penser, en fait.
Déjà, qu'est-ce que t'as pensé du fait que Braun Strowman se casse du ring quand Taker arrive?
J'étais super content. c'est super content. C'est important de montrer que Braun Strowman il a peur d'un vieillard de 50 ans. Ouais. Le truc c'est que j'ai marché comme le public, j'ai marché dedans comme le public. Et le public il exultait pas seulement parce que c'était l'Undertaker, il exultait parce qu'ils se sont dit mon Dieu. Éclair de génie, ils vont faire Undertaker contre Strowman. Est-ce que ça serait un bon match? Pas forcément, mais l'affiche donne envie. Surtout que l'Undertaker techniquement est toujours un face quoi. C'était le, c'était le, c'était le, il était venu à SmackDown, quand il était venu à SmackDown, d'ailleurs pour faire des menaces qui servaient à rien d'ailleurs, sur genre, hey, vous allez gagner Survivor Series parce que sinon, et puis voilà. Et donc du coup là, tout ça pour finalement, en fait, Strowman, c'est genre, oh non, je vais m'en aller parce que je sais que t'es booké avec Roman Reigns, alors. j'ai compris, c'est pas mon niveau. Hein. Bon, bah, mon rematch, je le mets dans ma poche. Et donc, du coup, voilà. Et puis, bon, Roman Reigns, il dit la même chose depuis un an. Hein. This is my yard, blablabla.
C'est assez récent. Avant, il disait, ouais, c'est moi le. Oui, c'est un peu ça, mais là, il le formule my yard depuis 2-3 semaines pour justement teaser ça. Ouais.
Donc voilà, moi, ça m'excite pas ce match, hein, ça m'excite pas Undertaker contre Roman Reigns. On sait que, enfin, pour moi, Roman Reigns, il peut faire des très bons matchs quand il est avec la bonne personne. C'est pas Roman Reigns qui fait briller les gens, quoi. Mmh, ouais. C'est les mecs qui sont avec lui qui permettent qu'il y a un grand match. L'Undertaker, il a besoin d'aide pour faire un bon match. Donc, c'est deux mecs qui généralement ont besoin de quelqu'un pour les faire briller. Donc, ça va.
Ça lance compliqué.
J'ai du mal à voir comment ça va briller. Tout ça.
Et du coup, comme ça, pronostic à l'arraché en avance, Roman Reigns et Undertaker, qui c'est qui gagne?
C'est Reigns qui gagne.
Ah ouais.
C'est Reigns qui gagne. Oui, il est déjà enterré. Il vient pour sa défaite tous les ans. Est-ce que
moi, ce que j'aurais perdu, il a perdu qu'une fois. Hein. Il a perdu qu'une fois le Taker, coucou contre Lesnar.
Oui, non, je dis, il vient pour sa défaite tous les ans. Il était contre qui?
Il a eu Shane McMahon l'année dernière.
Donc, il a eu Shane. Mais c'est pas un catcher, Shane.
Et pourtant, ça c'est, on laissera la primeur à nos camarades du supplément SmackDown d'en parler, mais il semblerait que Shane pourtant monopolise la mania un très grand catcher.
Je trouve pas qu'il a gagné. Enfin, moi psychologiquement, je trouve pas qu'il a regagné son estime Undertaker.
Non.
Son aura.
Après, il a quand même un vernis de superstar qui fait le show et la foule exulte de joie de le voir, qui sera jamais cassable parce que c'est la grosse légende qui reste encore, et même s'il est très diminué par rapport à avant, et comme tu dis, il ne fait plus un match seul intéressant, bon, ça reste quand même le Taker, quoi, bordel. Donc du coup, ça reste quand même un événement, même si sa streak depuis qu'elle est brisée, on a perdu un truc, mais il reste quand même un moment, c'est un WrestleMania moment, le match du Taker, qui soit moyen ou passable ou pas terrible ou un peu bon, ça reste un moment qu'on va regarder avec attention.
C'est même
on fait pas une pause pipi pendant le match du Taker, quoi. C'est
le truc, c'est que même moi je me souviens de sa rivalité avec Punk, qui était une bonne rivalité.
Ah, putain,
Le match était pas bon, enfin moi j'ai pas trouvé le match vraiment terrible, hein, et pourtant voilà, c'est il y avait CM Punk, quoi. Donc
Et oui, mais bon, c'est Booking qui faisait ça aussi, hein. C'est clair que c'était pipé d'avance. Là, du coup, ce qui est intéressant, c'est que on voit beaucoup en Reigns ce nouveau Cena. On a le côté babyface qui survole un peu tout, côté un peu Superman. Le public qui est partagé, pas 50-50, mais qui est partagé entre les Let's Go Roman Sucks. Mais une des choses qu'ils ont jamais fait avec Cena, c'est le faire affronter le Taker. Et là, ils prennent cette direction assez rapidement avec Roman Reigns. Du coup, je sais pas s'ils vont vraiment faire gagner. Est-ce que c'est pas le dernier match? Est-ce qu'ils vont pas aller jusqu'au bout du booking relou de Roman Reigns pour faire le dernier match du Taker contre Roman Reigns, et que Roman Reigns prenne le relais du Taker?
Prenne le relais du Taker?
Ouais. Ouais, t'imagines?
Il reprend si on le voit qu'une fois par an.
Il a la barbe, il a les cheveux. Tu lui rajoutes un long manteau et un chapeau, c'est le nouveau Taker, hein, Roman Reigns. Hein.
Et si on le voit.
C'est le moyen.
Si Roman Reigns, après, il disparaît, on le voit que à la Road to WrestleMania tous les ans. Enfin bon, je vais pas dire que je serais content, parce que bon. Mais je vois pas. Je pas du tout excité par ce match. Ça va. J'ai du mal à voir comment ça peut être un bon match. J'ai du mal à voir comment les échanges entre deux vont être intéressants, sachant que comme je disais avant, le Taker est un face, Roman Reigns est un face. Si le Taker commence à non, il pourra pas. Enfin, c'est même pas un face Undertaker, c'est que il y a pas de ces promos ont toujours été les mêmes, quoi. Enfin, je veux dire, du moins ces dernières années.
Hein, récemment. D'ailleurs, il y a quasiment pas de promos. Hein. C'est je te regarde, je regarde le symbole. Voilà. C'est bon, quoi.
Les rares fois où il parle, il utilise tout le temps les mêmes mots, les mêmes types de phrases. Donc du coup, il y a pas de.
West in peace. Voilà.
Reigns, je vois pas vraiment ce qu'il va faire ces prochaines semaines à part parler tout seul et dire que il peut y arriver et blablabla. Donc voilà. Peu importe.
Ouais, pas très au moins
on a séparé Strowman de Reigns. Ouais, donc j'espère justement j'espère que Strowman ils vont le mettre sur autre chose. Ouais. Ça sert à rien. Enfin, je veux dire, ça va être booké la semaine prochaine.
Oui, mais c'est la cohérence. Encore une fois, parce que tu aimes bien la cohérence. Je vois pas la Strowman après le foin qu'il a fait pour péter la gueule à Reigns ce soir. Je vois pas dire, ok, j'oublie tout puisqu'il y a Taker qui est arrivé la semaine dernière. Donc, je pense qu'il y aura au moins encore un match à Raw la semaine prochaine.
Ouais, voilà, et Reigns va encore gagner. L'histoire de creuser un peu plus.
À moins qu'il passe un triple threat, une triple frite, Taker, Reigns.
Jamais un triple threat avec Taker. S'il y a un triple threat avec Taker, ça sera avec un Triple H, avec un genre, ça va être avec des grandes stars, quoi. Il va pas faire un triple threat avec Strowman.
C'est un moyen de le faire un match un peu long en le laissant de côté. Il va rester 5 minutes au côté du ring, genre je récupère ma cardio et mon souffle. Je sais pas. Je retirerai pas cette option de la table définitivement. Moi, j'ai une surprise.
Et puis si Reigns nous refait le coup du Money in the Bank,
Rumble l'année dernière. Yeah. Mais je pense que c'est le Taker qui fera le coup.
Il va y avoir Strowman qui va se battre tout seul au milieu du ring pendant que les deux autres sont en train de rouiller. Voilà.
Bref, c'est plein de questions qu'on finit. Ce Raw nous amène. Maintenant, on sait du côté de Raw, on connaît plusieurs matchs pour WrestleMania. On a donc pour le titre universel Brock Lesnar contre Goldberg. On a pour le titre États-Unis Jericho Owens. Pour le titre par équipe, ce sera le club versus soit Cesaro et Sheamus, soit Enzo et Cass. On verra ça la semaine prochaine. Et donc, visiblement, un Roman Reigns contre le Taker et donc un triple frite à minima chez les filles entre Bayley, Charlotte et Sasha Banks. Donc la carte commence à se dessiner.
Ouais.
On verra bien.
Okay, okay.
Bref, c'est le mot de la fin. Eh bien, comme d'habitude, ton top, ton flop et une note.
Alors, mon top, c'est Austin Harris et Neville. C'est très très prometteur et c'est prometteur non seulement côté catch et côté micro. Donc voilà, faisons vivre les cruisers, ressuscitons les cruisers. C'est en bonne voie, même si c'est encore une fois avec un vétéran d'un côté. C'est pas non plus Austin Harris, il est pas vieux non plus, quoi. Il doit avoir 35 ans, un truc comme ça
je pense.
La bonne nouvelle et la mauvaise qu'est-ce qui était vraiment la façon dont, encore une fois, la façon dont ils ont géré Strowman, c'est dommage. Je sais pas comment ils auraient pu faire la séquence, mais ou peut-être juste Strowman qui fout un pain à terre à Roman Reigns et qui se tire. Et puis juste après que Strowman disparaît, le Taker qui arrive. Avec la proie Roman Reigns par terre et tout, et Reigns qui se relève pour essayer de toucher le Dead Man, mais là non, il le chope, slam, etc. Je sais pas, un booking qui rend Strowman qui montre pas que Strowman a peur d'un gars qui est finalement qui a pas la même carrure. Enfin, qui a pas la même, qui a pas une plus grosse carrure que lui. D'ailleurs, ce qui est, c'était marrant à voir, ils ont la même taille, quasiment.
Quasiment, ouais.
Donc c'est très rare de trouver un mec qui face au Taker paraît à peu près de la même taille.
C'est clair.
Et la note de ce roux mettra 2,5. Il y a eu des bonnes choses de fait sur. Il y a eu des bonnes choses de fait, mais c'était que des choses qu'on attendait déjà la veille. Enfin. Du coup, des confirmations, beaucoup de confirmations. La seule surprise, finalement, c'est Austin Harris. C'est pour ça que c'est mon, ouais. C'est mon top.
Eh ben, voilà.
Et les matchs n'étaient pas forcément terribles. Mmh. Franchement, pendant la soirée, non, vraiment, ouais, non. En général, les matchs étaient. Il n'y a pas eu un match exceptionnel en fait de la soirée. Il n'y a pas eu.
Non, c'est clair. Très bien. Eh ben mon top, ça aurait pu être scénariste, mais du coup pour prendre des choses, je vais dire le retour de Jericho tout simplement. Hein. C'est après un pay-per-view aussi catastrophique que Fastlane, c'est avec un peu une boule dans le ventre que je regardais Raw et j'étais content de commencer avec Jericho. Donc encore une fois, effectivement, c'est notre sauveur. Save us, Y2J. Merci de nous avoir sauvés ce soir. Le flop, moi, ça va être l'interview, même si c'était court, de Triple H. J'aime pas le fait qu'on le fasse intervenir pour rien dire. Triple H, même s'il a un rôle encore exécutif dans la boîte, il est pas souvent là, même s'il était pas vraiment là. Mais du coup, le faire intervenir, faut que ça reste un moment un peu intéressant ou qu'il y ait un truc. Et là, c'était pour rien dire du tout, donc j'aime pas ça. Et ma note, pareil, hein, 2,5, très moyen, hein, mais bon, voilà, on n'est qu'au début de la fin de la construction de la Road à WrestleMania, cette espèce de grand 8 qu'ils nous promettent. On espère que les prochaines émissions vont être un peu plus surprenantes, hein, parce que pour l'instant, c'est ce qui manque, hein, c'est l'élément de surprise dans cette Road à WrestleMania. On verra bien. D'ici là, eh bien, merci de nous regarder. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à CatchUpCDC, sur Facebook CatchUpCDC aussi. Vous pouvez nous regarder sur iTunes, sur PodCloud et sur YouTube. Laissez-nous des petits pouces, des likes, ça nous fait plaisir et ça nous aide à gagner en visibilité aussi. On vous en remercie. N'hésitez pas à lâcher des commentaires, nous dire vous c'est quoi votre top, vos flops et vos pronos sur la suite et nous poser des questions, on y répondra peut-être. D'ici là, vous retrouverez bientôt le supplément SmackDown et jusqu'à la prochaine fois, merci beaucoup Hank.
Merci.
Et merci à vous tous. À très bientôt. Très bonne semaine de catch à tout le monde. Salut.
Salut.